Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
C'est l'heure de parler avec Nicole Gibault. Salut Nicole.
Bonjour Geneviève.
Je veux qu'on parle tout d'abord d'un événement qui s'est passé plus tôt. Un homme qui a été criblé de balles dans le quartier Villeray. C'est une tentative de meurtre commise en plein jour. Là. C'est quand même assez rare que ça arrive. Ça serait lié au crime organisé. Là, cet homme-là qui aurait des liens bien connus avec la mafia. Il était dans sa voiture, dans sa BMW sur la rue Fabre et il a été atteint de projectiles. Et ce crime-là, quand même, semble avoir été exécuté de manière professionnelle. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que le système judiciaire qu'on pose avec des tentatives de meurtre comme celle-là, là, c'est-à-dire des tentatives de meurtre liées au crime organisé, des tentatives de meurtre considérées comme étant professionnelles?
Ouais, ben c'est sûr que si on retrouvait les présumés assaillants, là, c'est clair que... Et on va aller plus loin, qu'on les retrouve et qu'on les condamne, là, mettons, là. Alors, c'est sûr que ce profil de genre de personne serait certainement pris en considération sur une sentence plus lourde. Mmh. Ça, c'est clair. Mais ce qui est un peu désolant de voir, c'est que, mais enfin, désolant et en même temps, tant mieux qu'on n'ait pas frappé d'autres personnes à 8h20, là. Tu sais, des passants, moi, je connais pas, je suis pas assez connaissante dans les armes à feu, mais tu sais, ça défonce des fenêtres de véhicules. Est-ce que ça peut, tu sais, s'en aller de l'autre côté, là, ou bien c'est vraiment ciblé à un endroit, puis il y avait...
Il peut arriver des bavures, là. On se rappelle pendant la guerre des motards de ce jeune garçon qui avait été tué dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C'était pas lui la cible, mais quand on utilise des armes, ça peut arriver.
Exactement, puis on parle vraiment de 8h20, là. C'est pas comme comme tu dis, c'est en plein jour, là. Puis c'est quand même un quartier connu, une rue passante, et c'était pas loin apparemment de la résidence de quelqu'un qui était associé à ce monsieur-là, qui était bien connu, mais évidemment, ça joue dans des ligues fortes, là. C'est des grosses ligues majeures, là. On s'attend que, s'il y a des gens qui en voulait pour autre chose, parce que c'était pas un ange, là, mais personne ne mérite de se faire tirer comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, à un moment donné, je pense qu'ils s'attendent à ce que ça peut arriver dans ce genre de milieu-là. Mais pour ce qui est de la tentative de meurtre, évidemment, si on retrouve, mais c'est si on retrouve.
Oui, parce que ce sont des professionnels, comme on peut le supposer, malheureusement, là, ils en sont pas à leur premier barbecue. Ils savent exactement quoi faire, quoi pas faire, comment se débarrasser des preuves.
Ça. Et comment quitter rapidement d'une façon... Je comprends que c'est un peu plus dur de traverser les lignes en pandémie présentement en auto. Est-ce qu'il y a d'autres façons? J'imagine qu'on a fermé les portes des frontières un peu partout. Enfin, il y a un ensemble de scénarios possibles. Au moins, il y aurait une description d'un automobile, potentiellement des caméras dans le quartier qui seraient en mesure d'identifier. Mais est-ce que c'est leur véhicule? T'sais, est-ce que tu prends ton véhicule le matin, tu vas chercher ton petit café au Tim Hortons, puis tu continues chez faire un meurtre?
Non, je pense pas. Ton véhicule. Puis ce qui est supposé, le tireur, là, il se serait sauvé à pied, mais il n'est pas exclu, évidemment, qu'un complice l'ait attendu à proximité dans une voiture là qui n'était pas leur voiture personnelle.
Absolument, parce que c'est ce que les reporters disent qu'effectivement, il y a des gens qui ont vu un véhicule quitter à toute vitesse, donc potentiellement qu'il l'attendait quelque part d'autre.
Et là, je veux juste dire que France Louis, la victime, a été transportée à l'hôpital dans un état vraiment très critique. On craint actuellement pour sa vie. Tu voulais qu'on revienne, Nicole, sur cette attaque au camion Bélier. On en parle depuis quelques jours ensemble, là, parce que ce procès-là suit son cours et on se parlait, je pense que c'était hier ou avant-hier, là, de la thèse de la défense sur la santé mentale de l'accusé Alec Minassian. La question du trouble du spectre de l'autisme. Là, ça fait pas l'affaire de tout le monde et des experts qui contestent ça.
Absolument. En fait, l'association pour des gens qui protègent les ces personnes qui sont atteintes du spectre de l'autisme se sont insurgées carrément lorsqu'ils ont vu les... Je pense que c'est les propos tenus de façon générale. Et, tu te souviens, tu l'avais remarqué toi-même. Écoutez, là, c'est pas tous les gens...
Oui, on avait pris la peine de le dire parce que c'est très sensible, puis il faut pas faire d'amalgame.
Absolument, puis c'est aussi sensible. Moi, je me souviens d'avoir couvert des dossiers où on parlait de schizophrénie, où toute forme de maladie mentale, il y a pas une équation là que ces gens-là sont dangereux puis qui vont causer ce genre de dommages-là. 10 meurtres prémédités et 16 tentatives de meurtre. Alors, l'association s'insurge et ils veulent, et j'ai compris qu'ils vont scruter à la loupe le rapport d'expertise pour voir si effectivement ils ont les pieds. Ils vont le faire contre-expertiser, là, ce genre de rapport-là. Maintenant, il y a également un contre-interrogatoire. Et là, ça a pris toute une tournure. Là, parce que on se souvient qu'on a jasé du fait qu'il n'y avait pas d'émotion. Son père est venu témoigner. C'était le premier témoignage.
Ouais.
Son père était venu témoigner pour dire, mon fils, il n'y a pas d'émotion, il agit comme ci, comme ça, voilà, puis tout ça, puis bon, il avait fait une preuve en défense à cet effet-là. Mais là, la couronne, il a rentré dedans, là, pas à peu près, là, Geneviève, là, en disant, ah oui, vous avez pas fait des recherches, vous, sur ça?
Tu veux dire, la couronne est rentrée dans son père?
Dans le père.
Ah oui, okay.
Dans le père, dans le témoignage, en contre-interrogatoire, ils ont rentré dedans avec le père qui a témoigné que son fils était comme ci, comme ça, pour savoir si, évidemment, là, je peux comprendre, pour l'ébranler un peu, pour savoir s'il avait préparé un petit peu son témoignage en fonction des recherches qu'il avait faites et des consultations qu'il avait faites sur Internet sur le spectre de l'autisme. Parce que je pense qu'en soi, là, il n'y a pas personne qui va douter qu'il y a nettement un problème, peut-être un problème découlant du spectre de l'autisme, mais est-ce que ça n'en fait une non-responsabilité criminelle? Là, c'est rendu plus loin encore.
Mais c'est une bataille d'experts, en fait.
Là, c'est rendu qu'on dit non, ils sont capables de différencier le bien du mal, ils comprennent très bien ce qu'ils font. Par contre, mais je pense que je vois venir un peu là, ce qui s'en vient, c'est que quand on est accusé de meurtre au premier degré, si on affaiblit la notion d'intention et qu'on veut diminuer cette notion d'intention pure et claire que l'accusé, s'il était trouvé coupable, on dirait oui, meurtre au premier degré, c'est parce qu'il y a une intention claire, bien et de propos délibérés. Si on fait diminuer ça un petit peu avec une non-responsabilité ou même pas de non-responsabilité criminelle, mais un problème d'état mental qui ferait diminuer sa responsabilité, mais on peut tomber au meurtre au deuxième degré.
Mais tu sais, je trouve ça... Oui, puis je trouve ça quand même cheap de faire témoigner le père comme ça, de l'accuser. Là, évidemment, t'es en grand conflit d'intérêts, c'est ton enfant, là, peu importe ce qu'il a fait. T'sais, c'est assez... Moi, je trouve ça spécial. Pour vrai, là, qu'on amène cet homme-là à la barre, oui, pour expliquer peut-être...
La défense.
Oui, c'est ça, mais je comprends que c'est la défense, mais après ça, le risque, c'est que, bon, c'est ce qui se passe en ce moment. Procureur de la Couronne qui cite l'article qui aurait permis, selon elle, à M. Minassian de relever tous les termes médicaux, de le mettre en boîte. Il me semble qu'un parent devrait être en droit de refuser de témoigner au procès de son enfant. C'est tellement qu'il vit dans un monde de licorne, mais il me semble que ce n'est pas tellement constructif ni objectif.
Oui, mais en soi, Geneviève, si, mettons, là, qu'on ébranle le tout, puis que ça sort, puis que c'est clair que c'est ça qui est arrivé.
Non, oui. C'est un couteau à double tranchant.
Regarde, si son père a voulu s'investir comme ça puis a accepté, là, c'est sûr que la défense, en toute honnêteté, là, si on pense que la défense force le père à venir témoigner, non.
Ben non.
Parce qu'il a voulu témoigner, qu'il est allé. Là, on forcera pas. La couronne aurait pu envoyer un subpoena. Mais on procède pas comme ça. T'sais. Un avocat n'envoie pas un subpoena au père de l'accusé. Il risque d'avoir des problèmes à l'interroger. Là, ça part mal, un interrogatoire. Mais ici, il a choisi. Mais c'est pourquoi qu'il a choisi. C'est ce que la couronne essaye de développer et essaye de miner sa crédibilité par les recherches qu'il a faites. Alors, c'est tout un procès et on suit ça. Moi, je vais le suivre régulièrement. On s'en reparle.
Bon, l'ex-juge de la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache, il est allé quand même de propos assez troublants sur la GRC. Là, 3 ans évalué des milliers de demandes d'indemnisation à conduire des centaines d'entrevues. Il vient de rendre un rapport dévastateur, là, vraiment. Là, moi, quand j'ai lu ça, Nicole, je me dis... marche. Les deux bras me sont tombés à terre. Un rapport sur le harcèlement et la discrimination fondée sur le sexe et l'orientation sexuelle au sein de la gendarmerie royale du Canada. Pardon. Et vraiment, quand on lit ça, là, tu dis, coudonc, la culture là-bas est toxique. Des attitudes misogynes, homophobes de certains dirigeants, des membres. Puis je veux juste qu'on donne des exemples, OK? Parce que je trouve que ce sont les exemples qui frappent l'imaginaire, là. Par exemple, des situations comme un instructeur masculin qui refuse de former convenablement une recrue parce que c'est une femme. Impossibilité de suivre un cours de formation continue en mesure de représailles pour avoir dit non à une relation sexuelle avec un superviseur. T'annonces ta grossesse, tu te fais insulter, du harcèlement, des injures sexistes, des attouchements non sollicités, des agressions, des viols lors d'examens médicaux. Et le juge Bastarache, là, l'ex-juge, a pas été tendre, il l'a dit. Le problème est de nature systémique et ne pourra être corrigé uniquement en sanctionnant quelques brebis galeuses.
Hey, celle-là, là, quand j'ai lu ça, ça choque. Hein? C'est comme ça fait l'électrochoc auquel on s'attend. Pour que le juge Bastarache dise ces propos-là de cette façon-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai été abasourdi quand j'ai lu la liste. Mais là, on parle pas en 1800, là. On parle vraiment d'exemples qu'on a pu repérer, là. Et il y a 52 recommandations. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, de la façon. Il faut que ça soit. On attaque ce problème-là de façon urgente, selon l'ex-juge Bastarache, qui est quand même un juge de la Cour suprême, là. Oui. C'est pas n'importe qui, là. Sa crédibilité n'est même pas mise en jeu là-dedans, là. Alors, il est outré, il est choqué, et ça fait mal de lire ça. Et ça sera pas évident pour la GRC de passer à côté, là, de ce problème. Et qui semble être systémique, là. Puis malheureusement, il va falloir qu'il change de culture, comme tu dis. Puis souvent,
oui, changer de culture, mais là, ce qu'on recommande, c'est carrément une enquête externe, une enquête indépendante en vue d'une restructuration, là. C'est pas rien.
Oui, tout à fait. Non, c'est pas rien. Non, vraiment. Puis pour que ça sorte comme ça, c'est parce que c'est du gros sérieux, là. C'est pas juste. On n'a pas juste effleuré le sujet. On est allé profondément. On voit de quelle façon le juge Bastarache a pris ce dossier-là au sérieux et qui est allé en profondeur et qui a soutiré tout ce qu'il y avait. Je pense que les pistes, il en a donné des recommandations. Il faut effectivement une restructuration selon lui. Mais c'est pour ça que je dis que ça atteint là, la GRC là, très, très, très fortement, là, ce genre de...
Ben oui, puis ça vient encore un petit peu, ben pas un petit peu, ça vient encore altérer la confiance du public envers, le système de justice, la police, tu sais, qui est critiquée de toutes parts depuis quelque temps, justement, pour soit du racisme systémique ou de la discrimination, toutes sortes d'affaires comme ça. Et là, bang, on a cette enquête-là qui vient nous dire, écoutez, là, puis en plus, il l'utilise, le mot systémique, là, qui est un mot quand même qui soulève la controverse. On le sait, là. Mais là, il va frontalement, il dit, il donne des exemples. Tu sais, comme membre de la population, quand tu vois ça, tu sais, il y a des gens qui appellent au démantèlement de la police, là. Moi, je vois pas jusque-là du tout, là. Mais à un moment donné, je comprends que le monde est à bout puis se dit que le système est pourri, là.
Ben, c'est pour ça que dans ce dossier-ci, là, on parle vraiment de la GRC, là. Dans ce dossier-ci spécifiquement, c'est extrêmement important de comprendre pourquoi on a demandé ce genre d'enquête là avec le juge Bastarache.
Parce qu'il y avait trop de plaintes.
Exactement. Et
3086 réclamations.
Exact.
125 Alors, millions de dollars versés en indemnisation. Je sais pas.
Et
là.
Voilà. Donc ça a été bien étudié par lui. Puis c'est ce que je trouve fondamental là-dedans, c'est que on s'en est occupé, il s'en est occupé, il a sorti les bons mots, il a pas eu peur de le dire. Puis c'est comme ça qu'il fallait l'attaquer là, parce que à cause des 3000 centaines de plaintes là. Alors je pense qu'il y a un gros ménage et il y a une restructuration interne possiblement une enquête externe, comme tu dis.
Mais ça va-tu être fait, Nicole? Tu sais, toi, avec ton expérience, là, tu me dirais quoi? Parce que on en a plein des rapports qui sont sur une tablette puis qui prennent la poussière, hein? On le sait.
Moi, je pense pas. Je ne pense pas qu'on va tabletter ce genre de rapport-là, en mon humble avis, considérant qu'il s'agit quand même là du corps de police canadien, là, la GRC. Là. Je ne pense pas qu'on va tabletter ceci, puis on... En toute honnêteté, là, on n'a pas à le tabletter. Là, il est au. Maintenant, quand on va agir, ça, ben c'est un autre paire de manches. Là, c'est toujours le même problème.
Une enquête indépendante, c'est externe, ça va prendre 3000 ans. Là.
Ben ça, regarde, on peut pas le savoir. Mais au moins, moi, ce que je trouve important, là, c'est que ça a été fait, ça a été dénoncé. On en a soutiré, en tout cas, les principaux éléments, on donne des recommandations et après ça, ben, c'est aux politiques d'agir là, et puis à tous ceux qui entourent ce système-là. Je pense qu'on ne pourra pas passer à côté, Geneviève, définitivement.
Merci, Nicole. On se reparle demain.
Merci, absolument. Ben. Au revoir.